15h36, vous êtes dans le retour en force au 103.5 Cool FM et c'est maintenant l'heure de se parler politique. Comme vous le savez, j'adore la politique et nous allons rejoindre notre chroniqueuse, fondatrice de Médias Relations Publiques et chroniqueuse au Journal de Québec et de Montréal, Marie-Ève Doyon. Comment vas-tu?
Ben, je vais très bien, vous les gars.
Ça va très bien. Avant de se parler de politique un peu, là, notre question du jour, si tu avais à te marier en temps de COVID, tu reportes ou tu te maries pareil?
Ah ben moi, si j'étais assez amoureuse pour me marier, c'est certain que je me marierais quand même, mais je suis plutôt du type à faire ça à l'hôtel de vite l'hôtel de ville à la va-vite. Alors, je suis pas le genre à faire un gros rassemblement.
Ça a la même valeur légale.
Oui, c'est ça.
Et voilà.
Exactement.
Bon, ça change pas l'amour, mais ça fait juste l'officialiser.
Effectivement. Ça change le party un peu, mais c'est pas grave. On a le temps après la COVID de remettre les parties ben en masse.
On va en avoir une coupe en réserve, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Marie-Ève, toi qui as été attachée politique, tu as travaillé dans des bureaux de ministres, là, faut que je te pose cette question-là, là. Le ministre Dubé, hier, qui s'est un peu fourvoyé avec la coiffeuse de Ted Fermines, qui a dit qu'elle savait, puis elle s'était présentée dans 6 endroits, puis finalement, bon, il a dû se revenir sur Twitter, puis il s'est pas excusé, mais il a dit qu'il avait commis une erreur. Comment ça se fait que ça arrive, ça, que le ministre a été mal informé comme ça?
Ben, soit le ministre a été mal informé, soit le ministre a mal compris parce qu'il a présumé de certaines informations. La relationniste en moi te dirait également que la langue qui fourche, ça arrive que ce soit devant les médias ou que ce soit en privé. Dans ce cas-là, ben, le ministre Dubé, qui est pas connu pour mâcher ses mots, là, habituellement, c'est quelqu'un qui a pas la langue de bois, qui va directement au but. S'il avait déjà la perception que cette personne-là savait qu'elle était contagieuse, puis qu'il a entendu ses aviseurs, mais des fois, on cherche juste à valider l'information qu'on connaît plutôt qu'écouter l'information réelle, ben il a échappé à un crapaud en conférence de presse. Maintenant, est-ce que c'était avéré ou non? J'ai vu dans certains reportages que la dame en question refusait de dire si elle se savait malade quand elle allait travailler. Le CIUS, lui, dit que madame ne le savait pas. Mais d'un côté ou d'un autre, ce qu'on va dire à M. Dubé, c'est vous allez vous rétracter parce que vous voulez pas vous faire accuser d'avoir nui à la réputation de quelqu'un et de lui avoir causé des problèmes. Alors, le ministre, évidemment, content ou non, s'est rétracté sur les médias sociaux.
Est-ce que tu penses que ça nuit un petit peu à sa crédibilité quand il nous arrive justement avec des bilans puis des mesures de encore plus sévères qu'il va nous apporter? Est-ce que ça nuit un petit peu à les informations qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont toutes véridiques? Est-ce qu'il prend le temps de vérifier toutes les informations qu'on lui donne à tous les jours?
Bien, il y a dans un cabinet toujours des gens qui ont des responsabilités. Le ministre n'est pas le seul à avoir des informations entre les mains. Sont transmises par toute son équipe. Dans le cas de la santé publique, il y a aussi les aviseurs de la santé publique, le docteur Arruda et tout ça, mais le ministre est l'ultime responsable. Je ne pense pas que ça va influencer la crédibilité qu'il a dans la perception du public. Tout le monde comprend que les choses vont très vite, que la situation évolue, que l'erreur est humaine, surtout quand elle est reconnue rapidement. Évidemment, ben, comme on parlait de l'intention qui pouvait mener à l'idée d'une intention qui pouvait être malicieuse, là, c'est délicat parce qu'on peut nuire à quelqu'un, mais j'ai pas l'impression, moi, que le ministre avait l'intention de mettre quelqu'un sur la sellette, comme quand on a parlé, entre autres, des gens qui étaient allés au bar de karaoké, le Kirouac, à Québec, en disant qu'ils avaient fait la tournée des Grands-Ducs. Ces gens-là attendaient un résultat. Ça, c'était un comportement irresponsable. Mais le gouvernement va chercher de plus en plus aussi à pointer des individus au lieu de pointer des industries.
OK. Donc, c'est ça. On essaye de marteler. Et dans les dernières semaines, on martèle le message. On a besoin de vous. On essaie. Est-ce que ça fonctionne d'essayer de convaincre les gens qu'il faut absolument faire attention pour ne pas avoir deuxième verbe ou il va vraiment falloir aller avec des contraintes?
Bien, hier, il y avait plus de 1000 personnes devant l'Assemblée nationale qui manifestaient leur désaccord envers les mesures sanitaires sans le masque, sans la distanciation. En fin de semaine, on a vu jusqu'à 10 000 personnes dans les rues de Montréal faire la même chose. Et le premier ministre martèle en conférence de presse depuis 2-3 jours. Là, à chaque fois qu'il s'adresse aux médias, il l'a fait aujourd'hui en point de presse, hier en mêlée, hier en point de presse. Il dit c'est les parties privées, c'est l'expression qu'il utilise. Alors, ce que le premier ministre essaie de faire, c'est de s'éviter l'obligation de reconfiner certains secteurs. Mais il le répète depuis quelques jours, on n'a pas le pouvoir de rentrer dans les domiciles privés. Est-ce que là, il est en train de préparer les gens à accepter un durcissement des mesures qui permettrait aux policiers de violer le sanctuaire du domicile privé? Je sais pas, mais je trouve qu'il insiste beaucoup là-dessus, comme il insiste sur le fait que dans les manifestations, il se dédouane en disant on veut pas donner trop d'importance à ces gens-là, puis les valider dans leur perception, puis créer des martyrs. Mais on voit que ça devient un souci pour le premier ministre, qui n'a peut-être pas les moyens de contrôler une foule de 10 000 personnes si jamais il y avait un débordement. Et ça aussi, ça devient une question pressante. Les policiers se préparent parce que la population est de plus en plus irritée, puis on n'est jamais très, très loin d'un soulèvement de la population, qui soit majeur ou peu important, mais ça peut faire des dommages quand même. Là, 10 000 personnes fâchées dans les rues d'une ville, ça peut faire beaucoup de dommages.
Mais c'est l'impression que ça donne aussi qu'on veut pas attiser le feu, on veut pas jeter de l'huile sur le feu. Le droit de manifester, ça demeure un droit.
C'est un droit fondamental.
C'est ça. Quand on respecte pas les mesures mises en place, là, c'est peut-être une autre question. J'ai pas la prétention d'être spécialiste, mais justement, d'avoir 1000 personnes puis de les laisser aller, c'est probablement beaucoup moins dommageable que d'en avoir 10-15 000 qui viennent finalement manifester parce que la journée d'avant, contre les 1000 personnes, il y avait eu de la brutalité policière. T'sais.
Ben oui, la brutalité policière, c'est facile, un débordement, on l'a vu pendant les événements du printemps érable. Mm-hmm. Les policiers sont sous pression, ils sont nerveux, des fois ça prend une seule bavure pour que tout le reste parte du mauvais côté, puis il y a aucun corps policier qui va vouloir s'embarquer dans une opération qu'ils vont avoir l'impression d'être perdus d'avance. Alors, le gouvernement, en ce moment, essaie de convaincre parce qu'il n'y a pas vraiment les moyens de contraindre.
C'est un peu une patate chaude pour eux autres, là. Ils ne savent pas plus quoi faire avec ces personnes-là qui descendent dans la rue. Et hier, justement, devant l'Assemblée nationale, il y avait deux manifestations. Une le matin, qui étaient les infirmières, qui, eux, étaient masquées. Et après ça, dans l'après-midi, les gens sont arrivés pour... Puis là, ça s'est comme relancé. « Hey, nous, on porte le système à bout de bras. Ça craque partout. Vous n'avez pas de masque. L'autre, on n'a pas de masque. » Puis les autres en arrière qui crient « Liberté! Puis il faut pas porter de masque. Puis pourquoi vous le porter, ça n'existe même pas, la pandémie. » C'est un peu une patate chaude pour le gouvernement aussi, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là?
La seule bonne nouvelle qu'on a dans ce que tu viens de dire, Adam, c'est les dernières études dont on a parlé dans les derniers jours qui disaient qu'à peu près 1 personne sur 5 au Canada croit à une conspiration ou à une autre, alors que dans certains pays, c'est jusqu'à 1 personne sur 2. Tant et aussi longtemps qu'on est encore dans le domaine du possible. Puis les gens qui sont pas en faveur du port du masque à tout prix, c'est pas non plus toujours des gens qui pensent que la Terre est plate, là, puis que quand on se rend à Saint-Éphrem, on tombe au bout. C'est pas ça qui arrive, mais il y a des gens qui ne sont pas réceptifs envers les messages du gouvernement. Les messages du gouvernement ont beaucoup changé dans les dernières semaines, mais là, on a vu aujourd'hui couler dans les médias sociaux, sur Twitter, un peu une liste des indicateurs qui vont être utilisés pour reconfiner certains secteurs ou prendre des mesures plus draconiennes quand on passe au orange, ce qu'on n'a pas encore fait, quand on passe au rouge. Le gouvernement veut à tout prix ne pas refermer complètement l'économie du Québec. Ce serait dramatique de le faire. Mais comment est-ce qu'on fait pour concilier le fait que ce printemps, on a tout confiné et qu'on pourrait laisser les cas augmenter sans reconfiner plus tard, sans se faire dire au prochain scrutin électoral, vous êtes des tout croches, vous savez pas ce que vous faites, vous avez parlé des deux côtés de la bouche. Ça devient très difficile pour le gouvernement Legault et il va y avoir éventuellement une diminution de la lune de miel qu'on voit et qui perdure encore.
Parce qu'on a vu justement le ministre Dubé nous dire du bout des lèvres quelles pourraient être les nouvelles contraintes qui amèneraient une région à passer au orange. Donc, de passer dans une maison privée, les rassemblements passer de 10 à 8, peut-être même à 6. Ensuite, les restaurants fermés pour juste offrir du take-out. Il a nommé 2-3, mais il n'en a pas dit plus sur son plan. Est-ce que le gouvernement devrait donner un peu plus de détails sur son plan qui verrait que les gens puissent prendre conscience encore plus des contraintes qui pourraient se voir imposées?
Moi, mon inquiétude, c'est que ça change rien, que les gens qui aujourd'hui ne veulent pas porter le masque continuent à durcir leur position et à revendiquer le droit de ne pas porter le masque. Est-ce que ces gens-là vont mourir de la COVID? Fort probablement pas. Qu'ils risquent de faire, par contre, c'est de la contracter et de la transmettre à des personnes qui, elles, vont mourir de la COVID. Et vous pouvez dire ça à ces gens-là tant que vous voulez. Ce qu'ils vont vous dire, c'est de toute façon, c'est les vieux qui meurent, puis c'est normal, les vieux, ça meurt. Donc, on tourne un peu, c'est le chat qui se court après la queue, là. C'est difficile parce qu'il y a aussi le fait que le gouvernement essaie de dire depuis une semaine, attention les bars, soyons prudents, on va arrêter de servir de la nourriture après minuit, on va interdire le karaoké dans les prochaines semaines, mais les étapes suivantes, on les voit venir. Ça veut donc dire que ce seront les bars qui seront fermés en premier. Les tenanciers de bars disent que ça va amener les gens à poursuivre la soirée dans des maisons privées puis augmenter les risques de transmission. Les bars, c'est aussi tous les vidéos poker qui sont des revenus très, très, très importants pour le gouvernement. Pendant que l'argent sort à pleine vitesse des coffres, il faut qu'il demeure des façons d'en rentrer. Puis c'est parfois le crime organisé aussi qui pilote les bars et les débits d'alcool. Et là, il risque d'avoir des pressions et de l'agitation publique qui soient motivées plus ou moins légitimement. Si jamais les bars devaient reconfiner, les restaurants par la suite.
Est-ce que c'est juste mon impression où on nous martèle depuis l'été, là, puis c'est sûr que ça a été plus tranquille durant l'été, mais on nous dit on se prépare la deuxième vague, on se prépare, on a un plan, même le ministre a déposé un plan, mais on dirait que depuis deux semaines, là, comme les cas augmentent, là, on a passé le cap des 300 par jour aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a encore beaucoup d'improvisation, ou c'est peut-être juste mon impression?
Je pense pas que c'est une impression et vous allez entendre au cours de la session parlementaire les oppositions marteler ce point-là parce que pendant les premières semaines de la pandémie, les oppositions ont été dociles. D'ailleurs, Québec solidaire se les fait reprocher à son congrès ce week-end. Elles ont appuyé le gouvernement parce que c'était le temps de serrer les coudes. Mais là, six mois plus tard, les oppositions vont se permettre de pointer chaque fois où le gouvernement est incohérent, mal préparé, où finalement on a eu six mois puis on n'a rien fait. Vous aviez rien fait quand vous avez été alerté en janvier. Puis on s'est retrouvé le bec à l'eau en mars. Qu'est-ce que vous avez fait depuis mars? On va en entendre parler de plus en plus.
Effectivement. Marie-Ève, c'est toujours un plaisir de te parler. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste.
Avec plaisir.